Bonsoir à tous et bienvenue sur la dernière radio libre de francophonie. Ahlan wa sahlan, salutations à tous les sémites de cette planète. Aujourd'hui, pour faire suite à notre épisode sur Enrico Macias, nous repartons sur les routes de la migration, à travers des disques français qui transpirent l'Orient. Je vous propose un petit voyage qui nous mènera de la construction du canal de Suez aux migrations maghrébines des années 60, en passant, évidemment, par le président Nasser, les études postcoloniales et le chiche kebab. Tout ça sur fond de musique Alibaba Twist, un genre que nous avons créé a posteriori pour rendre compte de toutes ces musiques parues après la Seconde Guerre mondiale et qui, de près ou de loin, témoignent de ces migrations entre le monde arabe et la francophonie. Pour ce faire, nous voyagerons d'Ismaïlia, en Égypte, jusqu'à Juan-les-Pins, de 1956 à 1962, traversant ainsi la Méditerranée, à l'image de ces centaines de milliers de Maghrébins venus chercher un avenir plus radieux dans le paradis des hommes. Mais trêve de bavardage, partons pour le delta du Nil, où des Français ont creusé un trou qui a raccourci le monde, en Égypte, dans la ville d'Ismaïlia. Notre voyage commence à Ismaïlia, une ville construite par des Français au beau milieu de l'isthme de Suez. À votre gauche, le Caire et le delta du Nil, à votre droite, le désert du Sinaï. À l'origine ici, il y avait un lac et un petit village de Fela, des paysans égyptiens, mais au 19e siècle, on a vu des quartiers sortir de terre, des modules carrés avec des maisons à colombages qui rappelaient l'Alsace. Car la France et l'Égypte, c'est une vieille histoire. Ça avait commencé en 1798 déjà. Le général Napoléon Bonaparte pose la botte révolutionnaire en territoire mamelouk, ceci afin de barrer définitivement la route aux Indes pour les Anglais. Bon, les Anglais reviennent assez vite, cette campagne est une catastrophe pour les Français, qui meurent de dysenterie et de la peste, ils crèvent de faim, alors ils mangent leurs chevaux, c'est tellement la galère que les Anglais doivent rapatrier les derniers soldats français. Honte, humiliation, échec, l'histoire de France. Il n'empêche, cette campagne d'Égypte fut le point de départ d'une des entreprises les plus folles de l'humanité. Ici, à Ismaïlia, il s'est passé l'impensable. Cette ville, c'était en effet le quartier général du canal de Suez. Situé pile au centre d'une ligne allant de Port Saïd à Suez, au nord la Méditerranée, au sud le Grand Lac Amer, puis la Mer Rouge, le canal de Suez, c'est donc une route maritime qui relie la Méditerranée à l'océan Indien, un passage qui raccourcit le monde, la route qui a précipité nos économies dans la mondialisation. Alors, quand les Français sont arrivés, ils ont trouvé des actionnaires, ils ont déchiré la terre, ils se sont battus avec le Nil. Le canal de Suez, c'était un chantier hors norme. L'un des premiers chantiers à utiliser la machine à vapeur. Or, faut bien se rendre compte, on est au beau milieu du désert avec des tempêtes de sable qui abîment les machines, ce qui demande de les nettoyer chaque jour. Et puis, il faut beaucoup d'eau pour faire tourner tout ça et abreuver autant d'hommes. Plus de 100 000 ouvriers participeront au projet. Des Égyptiens principalement, accompagnés d'Italiens et d'Allemands, les contremaîtres et les ingénieurs, eux, sont français. La main-d'œuvre y est peu qualifiée, les ouvriers égyptiens sont là pour remplir une corvée, au sens strict, c'est-à-dire un travail obligatoire. Il y a donc un gros turnover parmi les équipes et beaucoup de décès. Plusieurs dizaines de milliers de morts. Au point que dans les milieux ouvriers, quand on parle des chantiers de Port Saïd ou d'Ismaïlia, on parle de Cayenne du désert. Souvent, les moyens sont sommaires, les outils rudimentaires, les techniques archaïques, les contremaîtres très stricts. Bref, c'est un projet pharaonique réalisé avec des copeaux de bois. Le canal est inauguré le 20 novembre 1869 après 10 ans de travaux. L'impératrice est là pour couper le cordon, de quoi rappeler que le canal est détenu à majorité par des actionnaires français, ce qui est très important pour la suite. Le canal de Suez sera administré par des Français jusqu'au point de bascule, 1956, le président Gamal Abdel Nasser nationalise le canal de Suez. Déjà qu'il fricotait avec les soviétiques et qu'il finançait le FLN en Algérie, en France, ça ne plaît pas du tout même. Pour les actionnaires, c'est le drame, ils perdent tous leurs avoirs, les ingénieurs, les contremaîtres français qui travaillent pour ce monstre des mers se retrouvent expulsés du jour au lendemain. Pour la compagnie de Suez, c'est la banqueroute, nom de Dieu, il faut renverser Nasser. Le 26 juillet 1956, le correspondant français à Londres de Radio France vous annonçait à la radio qu'un nouvel Hitler s'apprête à nationaliser cette belle petite entreprise française, le canal de Suez.
Allô Paris, ici Londres. La nationalisation de la compagnie du canal de Suez a provoqué la consternation en Angleterre et d'Israëli qui, en 1875, avait acheté au nom de la Grande-Bretagne des actions du canal pour une valeur de 4 millions de livres, a dû se retourner dans sa tombe. Nasser, aux yeux des Anglais, est aujourd'hui un nouvel Hitler. Le journal populaire de droite, Daily Mail, l'appelle l'Hitler du Nil. Discours enflammé, proclamation napoléonienne, décision brutale, ultimatum, annexion, parce qu'enfin la nationalisation du canal de Suez, c'est presque une annexion, rien ne manque au tableau. Un seul détail peut-être, d'après le Daily Telegraph, la tradition hitlérienne et mussolinienne aurait voulu que la nouvelle fût annoncée un samedi soir et de préférence tard dans la soirée. La presse anglaise d'aujourd'hui analyse les causes du coup de force égyptien. Naturellement, il y a d'abord le refus anglo-américain de financer le barrage d'Assouan. Les Anglais en étaient arrivés à la conclusion qu'il vaut mieux dépenser de l'argent pour entretenir des amis que pour entretenir des ennemis. Il est encore trop tôt pour savoir quelle solution ferme et prudente, pour reprendre les paroles de Sir Anthony Eden, le gouvernement britannique entend adopter. Intervention auprès des Nations Unies, blocage des avoirs égyptiens en sterling. En tout cas, l'impatience des Anglais est à son comble et une partie de l'opinion anglaise accueillerait chaleureusement l'envoi de quelques divisions dans la zone du canal de Suez. Il est vraisemblable aussi que la Grande-Bretagne prendra une position plus franche et plus favorable à l'égard d'Israël. Certains Anglais disent même qu'elle est la seule alliée sur qui les Occidentaux puissent aujourd'hui compter au Moyen-Orient. Ici Londres, Radiodiffusion, Télévision française.
Comme quoi, déjà à l'époque, brandir le nom d'Hitler suffisait pour envahir un pays. Une chose est cependant sûre, nationaliser le canal, c'était s'attaquer au grand capital. La France et la Grande-Bretagne montent au créneau, ils s'arrangent avec Israël, le deal. Pendant que Tsahal envahit le Sinaï, l'armée franco-britannique pénètre en territoire égyptien, tout ça pour, je cite, « protéger le canal de Suez ». Les Nations Unies évidemment ne laissent pas faire et pour une fois, les casques bleus ont fait le taf. Ils occupent le Sinaï, séparent les armées israéliennes et égyptiennes. La communauté internationale condamne à l'unanimité cette manœuvre coloniale. Français et Anglais rentrent en Europe, la queue entre les jambes. C'est acté, le canal de Suez appartient définitivement à l'Égypte et à son peuple. Mais pourquoi je vous parle de tout ça, vous allez me dire? Eh bien parce que l'un des télégraphistes de la compagnie du canal de Suez, un certain Aimé François, perd son emploi avec la nationalisation. Et il n'est pas le seul, juifs, britanniques et français sont expulsés du territoire égyptien, la plupart vivaient à Ismaïlia avec leurs familles, leurs habitudes, parfois depuis plusieurs générations. Pour tous ces gens, c'est le drame. Aimé, notre télégraphiste, il a un fils de 17 ans qui doit quitter l'Égypte de son enfance, tout ce qu'il connaît, ses amis, ses amours, sa langue même, puisqu'il parlait couramment l'arabe. Cet enfant, c'est Claude François, et pour Claude, la sortie d'Égypte est un véritable traumatisme. Car oui, quand Claude François vous dit « la lumière du phare d'Alexandrie fait naufrager les papillons de ma jeunesse », eh bien, cela voulait dire quelque chose. Ce qui signifie aussi que sans le président Nasser, sans la nationalisation du canal de Suez, vous n'auriez jamais pu déhancher vos fesses sur Alexandrie, Alexandra. Et c'est pourquoi je vous passe en face à le Naboot Twist de Coco, le premier pseudonyme de Claude François, alors qu'il n'avait encore aucun succès et qu'il chante, naturellement, en français mais aussi en arabe. Son 45 tours ne s'est pas vendu, mais on ne va pas bouder notre plaisir, car après tout, écoutez Claude François chanter en arabe, mashallah. Bref, voici le Naboot Twist, parce qu'en Orient, pour twister, ils n'ont pas attendu Johnny Hallyday, Coco, alias Claude François, en 1962.
El Naboot, c'est la danse que vous appelez le twist. El Naboot, El Naboot, il y a bien longtemps que cela existe. El Naboot, Le Naboot, hâte d'avoir fait chez moi fait les mines. Le Naboot, Le Naboot, Ersiawala, ta coulba sa te champine. On dit que le twist est américain. Ne croyez pas ça car il n'en est rien. Là-bas en Orient ils ont tous twisté. Ils n'ont pas attendu Johnny Hallyday.
El Naboot, El Naboot.
Depuis toujours c'est la danse orientale. Elle la voûte, elle la voûte. C'est une question de force abdominale. Le la voûte, le la voûte. Hâte d'avoir fait du mal, m'a fait les mines. Le la voûte, le la voûte. Erciawa la ta coulba, ça te chrape djinn. Le Naboot en fait c'est un gros gourdin. Quand tu stand, on tient avec les deux mains. Il n'y a rien de mieux pour la digestion. Fais ce que dit le docteur et ne posez pas de questions.
En 1962, la 5e République du général de Gaulle fête ses 4 ans. L'Algérie obtient son indépendance, l'Égypte engage des scientifiques nazis pour son programme d'armement et Israël leur envoie des colis piégés. Mais tout ça, la jeunesse française ne s'en soucie pas vraiment, elle passe son été à Jouan-les-Pins. Jouan-les-Pins, à l'époque, c'était The Place to Be, une petite station balnéaire sur la Côte d'Azur où il fait bon d'y passer ses vacances. On vient écouter Johnny Hallyday, Richard Anthony, Les Chaussettes Noires, Dalida ou la très jeune Françoise Hardy. On boit du Rickless sur la plage en regardant les filles dans le tout nouveau bikini, rendu populaire par Brigitte Bardot dans le film Et Dieu créa la femme, la même année que la nationalisation du canal de Suez en 1956. Claude François commence à peine à connaître le succès avec Belle, Belle, Belle. La crise de Suez semble bien loin et pourtant, derrière les déhanchés et le twist, la société française se transforme considérablement. La fin de la colonisation marque l'essor de la plus importante communauté étrangère que la France ait connue, la communauté maghrébine. Une communauté qui se mêle à cette jeunesse française, les célèbres boomers, avec des influences culturelles importantes, notamment l'apparition de musique issue de la diversité ou traitant de ces thèmes, bref, ce que nous avons appelé l'Alibaba Twist, titre d'une chanson de Claude François et de Bob Azam, par ailleurs. Mais comment expliquer cette explosion migratoire en pleine période décoloniale ? Il y a plusieurs facteurs. Le premier, il est économique. Les années 60, ce sont des années de croissance continue. L'industrie française se modernise, ce qui lui permet d'embaucher des travailleurs moins qualifiés, excite donc les Allemands, les Espagnols ou les Italiens, qui coûtent trop cher. Les Italiens sont d'ailleurs appelés à retourner travailler dans leur pays, l'Italie de 1962 s'étant lancée dans une politique de plein emploi. Sans oublier que la catastrophe du bois du casier en Belgique avait littéralement vacciné les Italiens qui ne voulaient plus travailler dans les mines, et on les comprend. La mécanisation de l'industrie française permet donc au patronat d'engager de nombreux travailleurs issus du Maghreb. Les Marocains, par exemple, étaient particulièrement appréciés dans le secteur de l'automobile. Sans oublier aussi que les économies nord-africaines sont largement sous-développées, les salaires y sont bas, et tout comme en France, il y a trop de main-d'œuvre disponible et pas assez de travailleurs. La mécanisation de l'agriculture à la fin de l'époque coloniale n'a fait qu'accroître un chômage qui ne pouvait plus être contrôlé. Le taux de natalité ne cesse de grimper, bref, il y a une véritable fuite de la main-d'œuvre maghrébine pour la France par des moyens légaux ou clandestins. Un autre facteur à prendre en compte, c'est le facteur psychologique. La France, pour beaucoup de maghrébins, c'était la promesse d'une émancipation. On ne soulignera jamais assez l'importance de la culture dans ce phénomène. La scolarisation d'abord, puis les journaux, le cinéma, la radio, initiés par la puissance coloniale. Tout ça, ça a fait entrer la modernité dans le monde rural, ce qui a éveillé de nombreux rêves pour ces populations. Comme le disait Enrico Macias, la France, c'était son Amérique. Il y a enfin un troisième facteur qui entre en jeu. Dans les années 60, l'immigration change de nature. On passe d'une immigration temporaire liée au travail à une immigration permanente. Avant la guerre, les travailleurs migrants ne s'installaient pas de manière pérenne. Ils venaient en France travailler 2 ou 3 ans, puis repartaient dans leur pays pour être remplacé par un frère ou un cousin. C'est d'ailleurs une immigration principalement masculine. À partir des années 60, l'immigration devient familiale, les femmes maghrébines n'hésitent plus à traverser la Méditerranée accompagnées de leurs enfants, et ce, pour deux raisons principales. D'abord, la construction d'habitations à loyer modéré, les fameux HLM, ainsi qu'une politique sociale très favorable pour les familles. La loi sur le regroupement familial n'ayant fait que de rendre officiel un phénomène qui avait commencé déjà 10 à 15 ans auparavant. En 1961, il y avait près de 80 000 enfants algériens sur le territoire français, alors qu'ils seront 154 000 7 ans plus tard. Les années 60, c'est donc la naissance d'une politique d'immigration maghrébine pour la France, laquelle ne s'est d'ailleurs toujours pas arrêtée aujourd'hui. En 1985, l'historien Charles Robert Ageron écrivait « Aujourd'hui, le nombre des Maghrébins vivant en France égale celui des Européens installés au Maghreb à la fin de l'époque coloniale. » Un petit clin d'œil de l'histoire. La minorité maghrébine est donc bien installée, cimentée au corps social de souche, une véritable minorité en France, une minorité qu'on ne peut plus ignorer. Et tout ça, ça a commencé au début des années 60. Dans cette France effervescente qui danse à Jouant-les-Pins au rythme des disques de Johnny et Sylvie Vartan. Une époque où le monde arabe s'émancipe, l'Algérie prend son indépendance, l'Égypte nationalise le canal de Suez, la population du Maghreb se multiplie en France, bref, en 62, alors que les boomers dansent à Jouant-les-Pins, c'est le Maghreb qui reprend du poil de la bête. Et c'est pour ça qu'on a vu apparaître des artistes mettant en avant les thèmes de la migration, Enrico Macias, on l'a vu, mais beaucoup d'autres. Il y a aussi toute cette tradition de chansons en France arabe, dont on parlera dans un prochain épisode, mais aussi un artiste comme Bob Azam. Né Wadi George Azam, Bob, pour les intimes, était un Égyptien d'origine libanaise. Il est passé par l'Italie, comme beaucoup de migrants du Maghreb, Dalida y fit escale aussi. Bob Azam avait eu l'idée de produire des disques mêlant son orientalité à de la musique cha-cha ou à du swing. Il aura d'ailleurs son petit orchestre, un peu comme Ray Ventura, chantant des chansons légères, parfois humoristique. Il eut plusieurs succès assez importants, jouant les pins évidemment, Mustapha aussi, mais surtout Fais-moi du couscous chéri, qui pourrait aujourd'hui prêter à scandale. Et pourtant, cette chanson parle d'un homme ne pouvant fermer l'œil car sa femme lui demande de faire du couscous. Il remplace alors les pois chiches par des haricots, jetant la semoule au moineau, son couscous devenant donc un cassoulet. Derrière cette petite chanson légère, c'est toute la question des habitudes perturbées par la migration qui est posée. Celle d'un Égyptien qui doit délaisser son plat favori, le couscous, pour du cassoulet, somme toute ce qu'ont dû vivre la presque totalité des migrants arrivés à l'époque. La petite histoire qui rencontre la grande. Je ne vous passerai pas Fais-moi du couscous chéri ce soir, car elle est déjà fort connue, vous la trouverez assez facilement. Je préfère vous diffuser Habibi Rock, de Bob Azam toujours, lequel vous emmène à Bagdad goûter du shish kebab. Alors yalla, Bob Azam, Habibi Rock, en 1960.
Marchait nonchalant, soudain ce fut pressant. Il se mit à courir, car il pouvait sentir là-bas sous le baobab l'odeur du chiche kebab. Chiche kebab, rock, 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 ya habibi, rock, 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 ya ayuni, rock, 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 ya habibi, rock, 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 ya ayuni, rock, 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 ya habibi, rock, non chiche kebab. Vous prenez du mouton, des tomates et des oignons, vous embrochez tout ça sur une aiguille en bois. Dans ma ville de Bagdad, c'est faire du chiche kebab. Chiche kebab, rock, 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 ya habibi, rock, 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 ya ayuni, rock, 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 ya habibi, rock, 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 ya ayuni, rock, 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 ya habibi, rock and roll chiche kebab. Criard et souillon, mais quand j'en ai assez et je veux la chasser, elle court sous le baobab me faire du chiche kebab. Chiche kebab, rock, 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 ya habibi, rock, 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 ya ayuni, rock, 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 ya habibi, rock, 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 ya ayuni, rock, 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 ya habibi, rock and roll chiche kebab. Du Caire à Beyrouth, Les caravanes font route, mais elles font un détour, et ça n'est pas le plus court. Pour passer par Bagdad, goûter le shish kebab, rock, 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 ya Habibi, roll, 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 ya Ayuni, rock, 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 ya Habibi, roll, 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 ya Ayuni, rock, 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 ya Habibi, rock and roll, shish kebab, ta da.
Toujours difficile de parler d'immigration sans avoir un discours connoté. Si vous êtes de droite, vous direz qu'il y en a toujours de trop, et si vous êtes de gauche, il n'y en a jamais assez. Or, l'immigration, c'est un sujet complexe où s'imbriquent des questions sociales, politiques, économiques et démographiques. Parler d'immigration, c'est toujours un peu parler d'histoire. L'immigration, c'est même le point de jonction entre la grande histoire, celle des événements, et la petite, celle des anecdotes privées. Ce qui est sûr, c'est que les migrations postcoloniales ont amené une partie d'Orient en Occident. Et c'est la raison pour laquelle je conclurai cette émission en vous parlant d'Edward Said et de l'orientalisme. On peut dire beaucoup de choses sur Edward Said. Les études postcoloniales, dont il fut l'un des fers de lance, sont aujourd'hui fort critiquables, voire datées. Il n'empêche, Edward Said fut l'un des premiers à critiquer ce qu'il appelait l'orientalisme dans son ouvrage « L'orientalisme ou l'Orient créé par l'Occident ». L'orientalisme, c'est une discipline à la base. Une discipline née en Europe entre le 18 et 19e siècle et qui entendait étudier, catégoriser, compiler, bref, percer les secrets de ce qu'on appelait l'Orient. Mais Edward Said montre très bien en quoi cette entreprise n'est pas neutre. Déjà, parce que les orientalistes ont un objet d'étude qui n'existe pas vraiment. L'Orient, qu'est-ce que c'est vraiment? La Chine, l'Inde, le Levant, l'Arabie, l'Égypte, le Maroc? Le problème principal des orientalistes, c'est qu'ils ont créé un objet d'étude, l'Orient, en lui attribuant toute une série de caractéristiques qui, bien souvent, étaient le fruit de ce qu'il pensait être l'Orient. D'ailleurs, il n'existe pas d'équivalent oriental de l'orientalisme, aucune université d'Égypte ou de Chine n'étudie l'occidentalisme. L'Orient, ça n'existe que dans la tête des Occidentaux, l'Orient en opposition à l'Occident, ce qui implique un choc des civilisations, une nécessité pour l'Occident d'élever l'Orient, de le sortir de sa torpeur religieuse, de l'élever sur le plan moral, technologique, politique, bref, préparer ou justifier la colonisation qui est en marche. Bien que cette thèse soit critiquable, elle n'en demeure pas moins utile pour comprendre le rapport que nos sociétés entretiennent avec ce qu'on appelle l'Orient. Dans le pire des cas, le racisme est décomplexé, dans le meilleur, la posture est paternaliste. Or, le canal de Suez, par exemple, a été une entreprise orientaliste avant d'être colonialiste, justement. C'est pour ouvrir à la France la route des Indes afin de faire transiter ses marchandises pour son marché, et ce, dans sa course effrénée contre l'Angleterre. Le seul à inverser cette tendance, c'est Gamal Abdel Nasser, en 56, justement. Raison pour laquelle il est considéré aujourd'hui comme l'un des chantres de la décolonisation. En d'autres mots, le canal de Suez réalise la vieille doctrine de Claude-Henri de Saint-Simon, le grand penseur occidental de l'industrie, je cite, « Peupler le globe de la race européenne, qui est supérieure à toutes les autres races d'hommes, le rendre voyageable et habitable comme l'Europe, voilà l'entreprise par laquelle le Parlement européen devra continuellement exercer l'activité de l'Europe et la tenir toujours en haleine. » Tout un programme. De la même manière que le devoir des industriels et des philanthropes dans une société capitaliste est d'élever le niveau de la classe ouvrière, il est du devoir de l'occidental d'élever le niveau des orientaux. Ainsi, l'orientalisme est une pensée, une vision du monde qui s'intègre dans le capitalisme industriel, puis plus tard dans le projet colonial. Les disques que je vous ai passés ce soir reproduisent sans aucun doute cette posture orientaliste. Habibi Rock, de Bob Azam, nous emmène manger du shish kebab sous un baobab à Bagdad, comme si l'on mangeait du shish kebab en Irak et comme si l'on trouvait des baobabs à Bagdad. Ce méli-mélo oriental n'a aucun sens, vous en conviendrez. Pareillement, le Naboo Twist de Claude François fait remonter le twist à la danse du ventre, ce qui rappelle ce vieux poncif orientaliste comme quoi l'Orient serait sexuel par essence, brut, décadent. Et pourtant, Bob Azam était égyptien, Claude François aussi, d'une certaine manière. Et ils ne seront pas les seuls, Enrico Macias, Blonblon, Lili Boniche, Salim Alali, Lynn Monti ou encore Dalida, je l'ai déjà dit. Ces chansons ont pu être écoutées par les Maghrébins, parfois elles servaient même de tremplin de leur culture arabe vers la culture française. Toutes ces chansons ont participé à la constitution d'un soft power, d'une appropriation mutuelle de la culture de l'autre. Un creuset qui transforme l'étranger en frère, et ce, pour que jamais plus ses enfants n'aient à subir la tragédie de la migration. Or, au tournant des années 80, il y eut comme une nouvelle manière de percevoir l'immigration maghrébine. On a commencé à souhaiter leur garantir un droit à la différence, un régime d'exception qui rappelle d'ailleurs la vision coloniale avec sa ségrégation et ses a priori. On a simplement remplacé le canal de Suez par les HLM. S'il existe un orientalisme de droite, il en existe aussi un de gauche, lequel conserve le même paternalisme. Une idéologie bienveillante, évidemment, visant à mieux intégrer cette minorité au nom des particularités qu'on leur prêtait. Mais une idéologie qui ne reste pas moins orientaliste pourtant, partant du principe que ces populations ne seraient pas faites pour l'Occident, ou pire, pas prêtes. Comme si les orientaux ne pouvaient pas participer à ce projet de civilisation fondé sur une certaine idée du droit, de l'homme et de l'universel. Comme si ces populations étaient trop différentes, bref, comme si elles faisaient partie d'une humanité parallèle, trop autre, trop différente pour nous. Et si nous pensons les aider ou mieux les accueillir en agissant de la sorte, nous ne faisons que de les maintenir dans le ghetto, exposés aux vagues de xénophobie et aux atermoiements de l'histoire. Et c'est oublier que l'émigration en Occident était, pour la majorité d'entre eux, une émancipation, justement. L'émancipation non pas d'une culture, d'une religion ou d'un Orient fantasmé, mais l'émancipation vis-à-vis d'un système de domination complexe qu'ils entendaient quitter pour l'Europe. Et voir les choses de ce point de vue, c'est sortir de ce débat verrouillé entre l'assimilation et la créolisation. Car la question ne doit pas être posée en termes de qui s'adapte à qui, ou alors nous serons condamnés à revivre la crise de Suez éternellement. Je terminerai cet épisode par une citation de Mouloud Feraoun, un écrivain algérien assassiné par l'OAS, et qui écrivait ces lignes d'une grande beauté, mais aussi d'une très grande sévérité vis-à-vis de la migration en France en 1957. Il y raconte le souvenir d'un migrant algérien qui se souvient, 5 ans après son départ, de ce que sa mère lui a dit juste avant de partir. « Tu quittes le pays de la faim, tu vas au paradis des hommes, mais tu y seras étranger et tu reviendras dans ton enfer. Au début, tu penseras à nous là-bas. Va, nous ne t'envions pas. Tu auras à lutter et à souffrir, et s'il t'arrive d'être heureux, à coup sûr, tu nous oublieras. Nous te réservons notre mépris, le mépris des damnés pour ceux qui le seront un jour et qui cherchent vainement à le fuir. Toute ma haine est pour ces gens heureux qui te recevront comme un chien. Toi, l'unique fruit de ma chair, toute ma haine sera pour toi le jour que tu m'abandonneras quand tu te croiras heureux alors que le bonheur n'existe pas ailleurs qu'ici. Dans ton gourbi, près de ta mère qui n'aime personne et ne craint personne. Va-t'en, partez tous, génération de lâches, ma malédiction vous accompagne. » Fin de citation. Cette malédiction dont parle Mouloud Feraoun ne semble toujours pas avoir quitté les populations maghrébines installées en France. Telle en tout cas est la tragédie de cet Orient que nous avons bloqué entre l'islam et les 40 voleurs. Merci beaucoup de votre écoute, je vous souhaite une bonne nuit et vous laisse désormais avec un dernier disque d'Alida qui chante en arabe, une autre grande dame issue de l'Égypte. Shukran et Yalla. في الدنيا الكبيرة وبلادها الكبيرة.
fête, la fête, la fête. Où est la manadane?